Bonsoir à tous. La politique au centre des débats entre journalistes cette semaine. Les débats qui partiront d'abord d'une démission et non de moindre au sein du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, le PPRD au pouvoir. Le gouverneur de l'ex-province du Katanga et au cadre de ce parti a pris congé de son poste de gouverneur et même du parti au pouvoir. Nous en parlons dans moins d'un quart d'heure. Et puis toujours dans la même famille politique, le PPRD, les députés nationaux Lucien Kasongo et Simplice Ilunga, devenus vice-ministres aux transports et voies des communications, ont proposé cette semaine la loi sur le référendum. Une proposition de loi que dénoncent les opposants congolais à tort ou à raison. Nous poserons la question à nos invités qui sont déjà dans ce studio. Voilà les deux thèmes de la tribune de la presse de ce vendredi 2 octobre 2015. Et les invités dans ce studio sont Baudouin Saïlé, éditeur responsable du journal La Tchopo qui paraît à Kisangani dans toute la partie est de la RDC. Baudouin, bonsoir.
Bonsoir, ça paraît à Kinshasa.
Et à Kisangani.
Non, ça paraît à Kinshasa ici, et puis j'envoie ça à Kisangani.
Merci pour la précision. J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui est émise ici à Kinshasa. J.R., bonsoir.
Oui, bonsoir, Mary Fakrou Chaka. Bonsoir, Odouin Saïlé Mbalanga. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent.
Et au téléphone, à partir de Mwanda, nous sommes au Congo central, Jean Dombassi, directeur général de la radio communautaire de Mwanda. Jean, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour mieux comprendre l'actualité de la semaine en trois quarts d'heure. Et pour commencer, voici la revue de presse qui porte la signature de Guy Maté, à qui je lis d'ailleurs bonsoir.
Bonsoir. L'actualité de cette semaine est marquée par l'agitation qui s'observe dans la vie politique en RDC. Ainsi, le Phare titre sur sa une, après la fronde du G7, Katumbi Kabila le divorce. Ce quotidien rapporte que suite à la fronde du G7, on savait que les jours de Moïse Katumbi au sein de la majorité présidentielle étaient comptés, surtout que l'intéressé était fiché sans la moindre preuve, comme le parrain de cette dissidence officialisée mercredi 16 septembre 2015. À l'instar des pères fondateurs du G7, poursuit les phares, Moïse Katumbi justifie sa rupture avec son ancienne famille politique par son refus de cautionner toute prolongation du mandat présidentiel. Depuis son discours sur la place de la Poste à Lubumbashi, où il avait utilisé la métaphore du troisième pénalty pour exprimer son opposition au troisième mandat du président Kabila, Moïse Katumbi était presque honni de la majorité présidentielle, explique le potentiel qui ajoute que tout a été fait pour le défenestrer du gouvernorat du Katanga. Certains pensent qu'il a été la principale cible dans les démembrements des provinces. Maintenant qu'il vient de se désolidariser du PPRD, l'ex-gouverneur du Katanga ne devrait pas tarder à afficher sa nouvelle coloration politique, conclut ce quotidien. La tempête des tropiques soutient que Moïse Katumbi accentue les exigences du G7. Ce quotidien souligne que, en démissionnant du PPRD et de son poste de gouverneur, l'homme d'affaires doublé d'homme politique réitère ainsi son opposition à la révision constitutionnelle et autres artifices antidémocratiques visant à maintenir Joseph Kabila à la tête du pays au-delà de 2016. Au sujet de la proposition de loi sur l'organisation du référendum, le potentiel titre « Projet de référendum », une incise dans les comptes rendus du Conseil des ministres ravive la polémique. Le journal rapporte qu'un projet de loi portant organisation du référendum en RDC circule sous le manteau. Élaboré à l'Assemblée nationale, il aurait déjà atteint l'étape du gouvernement, souligne ce quotidien. La surprise de la session en cours du Parlement pourrait être la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC, déposée dernièrement au bureau de l'Assemblée nationale par les députés Lucien Kasongo, Mwadiavita et Simplice Ilunga Monga, rapporte les phares qui précisent que, selon ses initiateurs, cette proposition de loi vise à combler un vide criant dans l'arsenal juridique congolais où la matière dénommée référendum ne serait pas codifiée. Réaménagement technique du gouvernement, les ministres issus des partis membres du G7 remplacés. Le président Kabila a procédé vendredi 25 septembre tard dans la nuit à un réaménagement technique du gouvernement Matata D, souligne la référence plus, qui précise que les dix réaménagements consistent essentiellement au remplacement des membres des partis du G7, exclus récemment de la majorité présidentielle. Les infidèles écartés du gouvernement, c'est la une de la tempête des tropiques. Selon ce quotidien, les ministres Bienvenu Liota Environnement, Isidore Kabwe Agriculture et Bijou Kat, Femmes, Familles et Enfants, sont désormais sans famille politique car ils ont également été virés de leur poste ministériel en dépit du désaveu qu'ils ont adressé aux leaders du G7.
Merci Guy Maté. L'actualité de la semaine, vous venez de l'entendre, c'est aussi le réaménagement technique du gouvernement Matata avec des nouvelles entrées et des permutations à certains postes ministériels. Un réaménagement intervenu, comme Guy l'a souligné, en fin de semaine dernière. Alors, Baudouin Saïlé, quelle lecture vous faites de ce réaménagement technique du gouvernement Matata 2?
C'est automatique. Comme il y a eu des départs, il devait y avoir d'autres ambitieux qui ont toqué devant la porte du président de la République pour qu'ils soient récupérés. Ils sont récupérés. Maintenant, l'opinion va regarder en face s'ils sont capables de faire quelque chose de bien.
Mais JR, est-ce que on peut s'attendre à quelque chose ou à une nouvelle dynamique de ces nouvelles entrées?
Je crois que c'est une toute petite équipe et que on ne peut pas dire qu'ils viendront apporter grand chose aussi longtemps que pratiquement la grande ossature autour du premier ministre Matata est restée là. Je voudrais quand même placer un petit mot. Je suis quand même content que ce que nous avons dit la semaine passée est en train de se réaliser, parce que nous avions dit que c'est cette vague de fidélisation, d'allégeance et tout ça va sûrement s'arrêter quand il y aura un remaniement, et voilà que le remaniement est arrivé. On n'entend plus, en tout cas, ces actes d'allégeance vis-à-vis du président de la République, et qui a vraiment essayé un peu de donner une leçon de morale à certains qui ont été amenés dans la fête par leurs leaders, et leurs leaders qui ont quitté la fête et voulaient rester. Ils voulaient montrer qu'ils étaient plus fidèles à Joseph Kabila qu'à ceux qui les ont permis à devenir ministre. C'est quand même immoral. Et le président, en tout cas, je crois qu'en faisant cela, je crois que ça doit avoir enseigné beaucoup de gens.
Et donc, pour vous, ceux qui ont quitté le gouvernement, ils sont désormais sans famille politique, comme l'a affirmé.
Oui, ils en ont en tout cas pour leur compte, parce que ils ont posé des actes d'infidélité. Ils récoltent, je crois, la tempête.
C'est qu'ils ont semé.
Oui, ils ont
d'accord. Alors, Jean Dombasi, comment est-ce qu'on a accueilli la nouvelle de ce réaménagement technique du gouvernement chez vous à Mwanda?
Bon, en tout cas, c'était normal, après tout ce qu'il y a eu comme vague de démissions. C'était normal qu'on puisse remplacer les partants, et nous pensons que ceux qui viennent de prendre place au sein de ce gouvernement vont quand même apporter du tonus, quoi, parce que après tout ce que la population de Mwanda attend ici, c'est le vécu quotidien du peuple congolais qui doit changer, et pourquoi pas les élections qui se pointent à l'horizon. Donc voilà un peu la réaction de la population, quoi.
Alors, puisque vous avez la parole, quelle est l'actualité qui fait la une chez vous à Mwanda?
Oui, à Mwanda, aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la détérioration très avancée de la route longeant la côte atlantique entre le kilomètre 5 et le restaurant New Cliff au bord de l'océan. Retenez que les eaux de l'océan ont débordé de leur lit et ont rendu le trafic impossible. Cette marée haute qui s'est produite dans la nuit du dimanche au lundi a cassé les bornes de soutenance métallique installées par l'entreprise Perenco, République démocratique du Congo. Ainsi, ceux qui se rendaient du côté des bananes et ceux qui faisaient le sens contraire étaient tous bloqués. La population de Mwanda réclame l'implication des autorités compétentes pour réhabiliter complètement cette route qui fait partie de la nationale numéro 1.
Merci beaucoup. Alors, une autre nouvelle aussi importante de cette semaine, c'est la suppression effective des visas pour traverser le fleuve Congo. Une disposition qui concerne les habitants d'un périmètre de 50 km de part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République populaire du Congo. J.R. Mokolo, est-ce que vous êtes satisfait de cette mesure?
Oui, aussi longtemps que cette mesure va permettre quand même à de nombreux Congolais qui ont de la famille de l'autre côté du fleuve Congo de puissent voir, en tout cas, s'y rendre, ça va faciliter le contact entre les deux peuples. Mais ça vient quand même, on accueille ça favorablement, mais nous regrettons tout simplement tout ce qui s'était passé avec les actes de violence contre les Congolais de Kinshasa. Et aujourd'hui, même si les Congolais de Kinshasa se rendaient à Brazzaville, est-ce que vraiment ils seront bien traités par leurs frères de l'autre côté? Parce que jusqu'à maintenant...
Donc pour vous, la blessure
la blessure n'est pas encore cicatrisée.
mais nous invitons seulement les uns les autres à pouvoir en tout cas oublier le passé, et que s'il y a des actions à mener, je crois qu'il faut voir du côté de la justice plutôt que de s'engager à des représailles. Si aujourd'hui à Kinshasa nous voyons des Congolais de Brazzaville venir ici, je crois qu'on les laisse entrer, qu'on s'engage pas dans des représailles, mais si quelqu'un a des motifs valables pour pouvoir en tout cas saisir la justice pour ce dont il était victime de par le passé, je crois que c'est tout à fait légitime que les gens puissent rester en justice contre ceux qui lui ont causé du tort, mais que les contacts puissent continuer, parce que tout le monde n'avait pas de quoi s'octroyer un passeport. Vous savez combien ça coûte pour avoir un passeport. Tout le monde n'a pas d'argent pour aller chercher un visa, pour par exemple se rendre à Brazzaville pour participer à une fête ou dans un deuil. Je crois que ça vient en tout cas faciliter les contacts, et c'est depuis longtemps que nous sommes toujours en contact, et c'était pas bien qu'on puisse couper ces contacts à travers des décisions politiques.
D'accord. Alors, Baudouin Saïlé, il faut la suppression des visas est uniquement pour une durée de 3 jours pour aller à Brazzaville. Est-ce que ça vous êtes aussi satisfait de cette mesure?
Je crois que la fois passée, il y a eu des casses. Nos frères de l'autre côté ont débordé. Et personnellement, j'avais apprécié le calme olympien du président de la République de notre pays.
Le président pas, Joseph Kabila.
Parce qu'il y a eu des gens qui commençaient à crier, mais il faut aussi chasser les Congolais de Brazzaville, les Congos de Kinshasa, etc. Mais le président est resté calme. Et son aîné a pu prendre l'hélicoptère pour traverser de ces côtés ici, pour venir peut-être voir,
discuter
de ces questions, présenter des excuses parce qu'il y a des débordements. Alors, moi, j'ai dit tout simplement que les deux Congos, nous sommes des frères. Parce que, à Kinshasa, il y a des Né-Congos. À Brazzaville, il y a des Né-Congos. Il y a des Bangalas là-bas, il y a des Bangalas ici. Mais pourquoi il devait y avoir des débordements? C'est pas bon. Avec le retour de la calmie, je crois que, prochainement, s'il y a des couacs quelque part, on doit mettre tout le monde autour d'une table pour discuter la méthodologie à suivre afin qu'on ne tombe plus dans les années du passé.
Mais alors même aujourd'hui, on parle de 3 jours. Si vous voulez aller, la suppression est effective rien que pour une durée de 3 jours. Après 3 jours, vous devez payer le visa.
Je crois que on va revenir aux bons sentiments. Ça c'est le premier pas. Je crois que prochainement on va revenir au premier pas pour que, en principe, il devait y avoir toujours un pont qui devait être jeté entre les deux rives.
Oui.
On dit que Congo Brazzaville et Congo Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Je crois que petit à petit, nous allons revenir sur le bon sentiment pour que quand je prends ma voiture ici, je traverse à Brazzaville, je reste une semaine là-bas, et puis je rentre chez moi.
Sans problème.
Mais beaucoup de restrictions, beaucoup de conditions entre frères, ça n'en honore pas.
D'accord. Alors, Jean Dombassi, est-ce que vous êtes aussi d'avis qu'on assiste là à un dégel entre Kinshasa et Brazzaville après les opérations de refoulement des Congolais?
Bon, je pense que d'abord nous saluons le consensus, le compromis arrêté entre le gouvernement de la République démocratique du Congo face aussi par rapport à ce que nous avons déploré la fois passée, parce que c'est vraiment anormal pour traverser du Congo, du côté du Congo Brazzaville, de chercher un visa. Si aujourd'hui on a facilité les choses en ce qui concerne les laissés passer, là vraiment nous applaudissons le grand travail effectué à ce sujet. Mais nous interpellons aussi le comportement de nous Congolais, parce que c'est comme si avec les laissés passer, on va encore en abuser, quoi. Parce qu'aujourd'hui à Mwanda, vous savez que il y a nos frères ici qui vont du côté de Kabinda, du côté de Soyo, avec les laissés passer de 3 jours. Mais au-delà des 3 jours, on se cache. On pense que les laissés passer, c'est un document définitif. Non, les laissés passer, ce n'est pas un document définitif. Ça vous donne 3 jours et puis vous rentrez chez vous. Donc voilà un peu, mais en tout cas, nous saluons tout ce qui s'est passé. Nous pensons que ça va apporter vraiment plusieurs échanges entre les deux nations proches, quoi, voilà.
Voilà, la note de satisfaction qui nous permet de rentrer dans le premier thème de cette soirée. Moïse Katumbi-Chapwe quitte le parti présidentiel, le PPRD, et le poste de gouverneur du Katanga. Il a annoncé sur son compte Twitter le mardi de cette semaine, et dans son communiqué publié à cet effet, Moïse dénonce notamment les entraves à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et en rapport avec son entrée en politique, l'ex-gouverneur affirme, je cite, « Je ne suis pas venu en politique les poches vides, les gens savent que nous sommes une famille des grands bosseurs. » Fin de citation. Moïse répondait ainsi à ses détracteurs. L'ex-gouverneur du Katanga affirme disposer des preuves pour étayer ses arguments et on l'écoute au micro de Colin Djuma-Musombo.
J'ai déposé en bonne et due forme parce que je suis entré au PPRD pour que le PPRD, qui était mon parti, qui prenait la démocratie, puisse renforcer la démocratie dans notre pays. Et quand je vois là où nous sommes en train de partir, je me suis dit, je dois quitter le PPRD. Pour les autres qui disent que Moïse Katumbi venait de trahir, je suis désolé. Parce que vous savez, quand on dit la vérité, peut-être c'est ça la trahison. Et moi, je considère les gens qui ne veulent pas écouter les gens qui voudront dans notre pays changer à tout prix la constitution, les gens qui voudront aussi à tout prix que nous ne puissions pas avoir les élections en 2016, les gens qui voudront nommer le commissaire spécial, c'est ça une trahison. Mais si vous regardez, depuis que je suis venu au pouvoir, j'ai dit non, je vais respecter les textes, je vais respecter la constitution. Si la trahison, c'est parce qu'on a respecté la constitution, je suis désolé.
En réaction, le gouvernement dit ne pas être surpris par la démission de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Selon le porte-parole du gouvernement, si Moïse Katumbi a pu garder son poste de gouverneur, c'était par la grandeur d'âme du chef de l'État. Lambert Mende le dit à Jeff Ngoy.
Sa démission ne nous surprenait pas parce que ça faisait plus d'un an qu'il avait pris des positions à l'emporte-pièce, à contrario de la philosophie politique de notre famille politique, que c'est simplement à la grandeur d'âme du président Joseph Kabila qu'il a dû de pouvoir garder son poste à la tête de l'ex-province du Katanga pendant tout ce temps.
Quelle leçon vous en tirez?
Que nous sommes à la croisée des chemins, que nous sommes dans le collimateur des forces néocolonialistes, les mêmes qui taxaient Lumumba d'être un critique communiste, qu'il n'était pas, et qui nous taxe aujourd'hui de vouloir violer la constitution que le président ne viole pas. Et donc nous savons que chaque fois qu'un régime en Afrique essaye de défendre les intérêts de sa population, ceux qui se sont confortablement installés dans l'exploitation inégale des richesses de nos pays se lèvent et recrutent des invertébrés parmi nous pour le combattre.
Sachez que plusieurs langues se sont déliées cette semaine à la suite de cette démission. Fidèles auditeurs, vous venez de nous prendre en ce moment. Vous suivez la Tribune de la Presse sur la fréquence de la paix qui reçoit pour vous dans ce studio Baudouin Saïlé, éditeur du journal La Tchopo, un journal qui paraît à Kinshasa et dans l'ex-province orientale ainsi que dans la partie est du pays, J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa, et Jean Dombassi, directeur de la radio communautaire de Mwanda au Congo central. Baudouin Saïlé, quelle lecture ou quelle analyse vous faites de la démission de ce haut cadre du PPRD?
Pour la petite histoire, hein, je vous rappelle que lors de la conférence nationale souveraine, il y avait un homme politique qui était parti en exil et qui commençait à songer à retourner chez lui au Congo. Et à l'époque, on disait que dès qu'il rentre à Kinshasa, il y aura tremblement de terre. L'histoire est là, je ne peux pas citer le nom, moi j'ai toujours un discours personnel, moi j'étais à la conférence nationale, l'homme est rentré. L'homme avait géré chez nous à l'époque, Stanleyville était président là-bas. Il est rentré, il n'y a pas eu tremblement de terre. Vous comprenez mon frère, en politique, les gens sont en train d'intimider pour rien. Je me souviens également qu'avant la conférence nationale souveraine, il y a eu une démission d'un premier ministre ici, que vous connaissez. Hein, il avait démissionné, il n'y avait pas eu tremblement de terre. Aujourd'hui, c'est un gouverneur qui démissionne, mais parce que la province du Katanga n'existe plus.
Aujourd'hui, vous reprenez pratiquement les arguments du ministre de la Communication.
Non, ça c'est ma conception. Moi, le ministre de la Communication a sa vision à lui. Moi, je suis journaliste, politique également quelque part. Moi, bien je sûr. Dis tout simplement que la loi sur la programmation des provinces est déjà d'application. C'est une démarche irréversible. Aujourd'hui, le Katanga, le grand Katanga d'hier n'existe plus. Mais c'est émietté, il y a de membres et bancs. Donc le gouverneur qui a démissionné parce qu'il n'a plus le pouvoir, l'impérium de diriger tous les Katanga. Chez nous à Kisangani, la province orientale n'existe plus. Celui qui est là doit calmer en attendant le nouveau venu. Vous comprenez? Alors, tout ça, c'est du théâtre. Nous ne voulons pas ça. Le peuple congolais qui nous suit à partir de nos villages là, dans le Congo profond, a besoin de la paix sur toute l'étendue de la République. La démission qui se fait ici, chez moi à Bassoko, par exemple, moi je suis Mokele, de la Lioba. Chez nous, on ne connaît pas la démission. Qui
non, a pour vous, c'est un non-événement, quoi.
Je ne vais même pas parler dans mon journal, vous comprenez? Moi, je suis préoccupé plutôt par la paix, par le pain, par le transport.
Combien même c'est un haut cadre du PPRD?
Non, mon cher frère, est-ce qu'il y a un parti politique dans ce pays ici qui compte 1 million
d'adhérents?
Et les 1 million d'adhérents qui cotisent chaque mois 1 dollar. Quel est ce parti politique qui a 1 million d'adhérents qui sont capables de cotiser 1 dollar par mois? Il n'en a pas. Ce sont des gens qui viennent profiter. Non, dans la vie, il ne faut pas être ingrat.
Vous voulez dire que Moïse est venu profiter?
Je ne dis pas ça, je dis tout simplement que dans la vie, il faut être ingrat. Notre frère que je respecte a vécu en exil. Il est rentré grâce à son dossier moral, c'est connu. Il ne faut pas être ingrat.
Donc il est venu en politique les mains vides.
Le gens là, je ne sais pas s'il est venu les mains vides, mais je sais tout simplement qu'il a travaillé pendant 9 ans comme gouverneur de province.
Il a amassé de l'argent.
Je ne sais pas s'il a amassé de l'argent, je ne sais pas, mais juste simplement qu'il est revenu au pays grâce au président de la République.
D'accord.
Je continue deux minutes. Des gros poissons qui sont sortis des entrailles de la mouvance présidentielle qui ont géré la République grâce au président de la République. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le poignarder dans le dos.
Ah, ok. Donc pour vous, c'est une trahison, en fait. Voilà. C'est un événement, et puis c'est une trahison.
Je regrette infiniment, mais aujourd'hui, j'ai une voiture, Mercedes, etc. C'est grâce à...
Très bien. Alors, J.R. Mokolo, il y a 2 semaines, c'était le G7 qui s'est désolidarisé de la famille politique majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui démissionne du PPRD et du gouvernorat de l'ex-Katanga. Quelle lecture vous faites?
Oui. Contrairement à ce que les doyens, vous savez, les Mbalanga viennent de dire, c'est pas à cause du fait que la province du Katanga n'existe plus que Moïse Katumbi a démissionné. Si Moïse Katumbi a démissionné, c'est parce qu'il n'était plus en phase avec une bonne frange de la majorité présidentielle qui était dans un schéma de conservation du pouvoir par tous les moyens. Voilà, en cherchant à retarder les élections, en disant voilà, la Constitution prévoit que si le président actuel ne peut quitter le pouvoir qu'après l'élection de son successeur, donc il estimait que c'était un schéma suicidaire. Vous savez, de tous ceux qui sont dans les G7, ceux qui ont démissionné, la plupart, ce sont des anciens Mobutu, c'est des gens qui ont travaillé avec Mobutu. Mm-hmm. Et ils ont l'expérience d'un changement brutal du pouvoir. Ils ont été en exil, ils savent ce que c'est un exil. Ils ne voudraient pas rééditer la même chose, vivre la même chose pour la deuxième fois.
Surtout au soir de leur vie.
Voilà, surtout au soir de leur vie. C'est pourquoi ils ont conseillé à ce que la majorité présidentielle s'y choisisse un candidat en dehors du président Kabila qui ne peut plus se représenter sur la Constitution en 2016. Alors voilà, deux camps sont en train de s'affronter pratiquement dans la majorité présidentielle. On s'est rendu compte que l'autorité morale a pris fait et cause pour les camps qui prêche le glissement, qui prêche la prolongation par tous les moyens du mandat du président.
Mais tout ça reste les intentions qu'on prête au président de la République, si bien qu'il n'a pas annoncé officiellement qu'il ne serait pas candidat. Comment vous faites ce lien?
Est-ce que vous avez suivi Kinké Moulomba sur RFI, par exemple? Oui, il dit que
il n'y a pas de stock
de compétences. Et Machala qui dit que non, il faut pas que qu'on ait la culture des chantiers inachevés. Il a même une pétition pour initier une nouvelle constitution. Tous ces faisceaux-là d'informations montrent clairement que la majorité actuelle ne veut pas céder le pouvoir.
Combien même le président lui-même ne s'est pas prononcé.
Oui, le président n'est pas obligé de se prononcer. Mais on voit seulement les actes qui sont posés. Je vais par exemple vous indiquer. On était censé, par exemple, être en pleine campagne électorale pour les locales et les provinciales.
On en avait parlé la semaine dernière, oui.
Voilà. Qu'est-ce qui est fait? La CENI n'a même pas de moyens. Donc, ça veut dire que le processus électoral est bloqué, est piégé, et risque même d'imploser. Et que tous les signaux indiquent que On travaille pour un glissement.
Alors maintenant, comment vous expliquez que ce soit seulement pour les mêmes motifs pratiquement que les cadres de la majorité en général et du PPRD en particulier quittent le navire? On se souvient, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le G7 qui s'est désolidarisé de la majorité présidentielle, famille politique majorité présidentielle, et aujourd'hui c'est Moïse Katumbi qui quitte le PPRD pour pratiquement les mêmes motifs. Comment est-ce que il n'y a pas un lien finalement entre le G7 et Moïse Katumbi?
Je crois qu'ils mènent pratiquement les mêmes combats. Les combats pour l'alternance, les combats pour le changement dans ces pays. Je crois qu'ils sont dans le même combat. Et quand on parle de trahison, quand on parle de manque de reconnaissance, je me rappelle que la majorité actuelle est remplie de gens aussi qui ont quitté leur famille politique. Par exemple, les MLC. Il y a eu même quelqu'un qui était pratiquement l'ami d'enfance du président du MLC, mais qui l'a quitté au profit de la majorité actuelle. Donc il ne faut pas que la majorité croie qu'elle était en droit de pouvoir épuiser des cadres dans d'autres partis politiques et que le chemin inverse n'est pas possible. Donc je crois qu'ils sont en train pratiquement de subir ce qu'ils ont fait subir aux autres aussi.
Alors Jean Dombassi, comment est-ce que cette information de la démission de Moïse Katumbi est-elle, avait été accueillie dans les milieux politiques de chez vous au Congo central?
Oui, chez nous, au Congo central, bon, ce n'était pas une surprise, hein, parce que s'il faut déjà analyser tout ce qu'il commençait à faire comme déclaration, revenons au cas des troisième penalty décrié par les supporters, et vous allez comprendre que la voie de sortie pour Moïse Katumbi était déjà balisée. Mais l'homme a ses ambitions pour le moment et bon, il ne faut pas l'étouffer. Hein. Les droits civils et politiques sont bel et bien garantis dans la Constitution. Mais à ceux qui sont restés autour du chef de l'État, de faire la lecture de la situation sans complaisance.
Alors,
et envisager des actions correctives pour continuer à solidifier leur famille politique, de poser surtout des actes d'apaisement qui enlèvent les intentions qu'on leur prête, quoi.
D'accord.
Parce que
alors,
pour le moment, les gens pensent que pour ces gens-là, tous les décors sont plantés pour aller à un glissement. Et même si les autres ont parlé, et Kinkey a parlé, mais Kinkey, ce n'est pas Joseph Kabila. Et le chef de l'État a encore une année, et nous pensons que et beaucoup de choses vont avoir lieu l'année prochaine et nous allons voir si réellement si ces intentions sont fondées. Mais à l'heure actuelle, moi je ne vois pas comment les gens s'agitent et s'il y a des démissions au sein de la famille politique du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est tout à fait normal et dans la plupart des cas, ce sont des anciens mobutistes. Les amis l'ont dit, les anciens mobutistes qui sont venus et soutenir le chef de l'État, et aujourd'hui, ils sont en train de partir l'un après l'autre.
D'accord.
Et ça va continuer, hein, ça va continuer.
Oui, ça va continuer. Alors, Jean, une petite question. Moïse Katumbi dit qu'il quitte le PPRD pour tenter à sa manière de sauver la jeune démocratie qui est en train de naître en RDC. Est-ce que vous le croyez?
Mais il va sauver la jeune démocratie comment? Hein, parce qu'il est maintenant hors terrain, il va sauver la jeune démocratie comment? Il devait rester dans la majorité présidentielle, hein, continuer.
Mais dans la majorité, on lui a pas donné
ses opinions avec les autres.
Mais dans la majorité, on lui a pas donné le.
Maintenant, il est nulle part. Il va sauver la jeune démocratie par quel moyen?
Oui, Jean. Mais dans la majorité, il affirme n'avoir pas eu le temps de pouvoir donner ses idées précises quant aux élections de 2016, surtout en ce qui concerne la candidature du président de la République.
Mais la solution n'était pas de quitter. Même nos amis du G7, la solution n'était pas de quitter. Ils devaient rester à l'intérieur de leur famille politique et engager les débats, convaincre tout le monde que nous devons aller à l'alternance. Et l'alternance ne signifie pas seulement donner le pouvoir, céder le pouvoir à l'opposition. À l'interne, ils sont capables de se choisir, de se mettre d'accord autour d'un nouveau dirigeant. Ils sont capables. Donc, c'est
mal de quitter
la famille politique très tôt.
Oui, mais ils n'ont pas eu ce temps-là. Je vais vous demander une question. Je vais poser une dernière question sur laquelle on va faire le dernier tour de table. Moïse Katumbi a demandé une table ronde pour parler de sa richesse à son entrée politique, à son entrée en politique. Quelle analyse vous faites de cette démarche? Parce qu'il a été accusé par différents politiques de la RDC qu'il s'est enrichi en arrivant à la tête du gouvernorat de la province et qu'il est en train de trahir, mais il demande cette fois-ci une table ronde pour, je cite, crever l'abcès. Quelle analyse vous faites de cette déclaration de Moïse?
Non, ce n'est pas important cette histoire. Donc ça devient comme un concours des gens qui sont riches dans ce pays. Nous savons comment d'autres personnes se sont enrichies dans ce pays avec des méthodes obscures. Donc moi je pense que ça n'a pas d'importance parce que tout ça, ça va énerver la population. Vous savez mon cher, vous êtes à Kinshasa. La fois passée j'étais dans un village ici à Ouéka. Vers 14h j'ai surpris un écolier de deuxième secondaire qui revient de l'école parce qu'après avoir marché pendant 7 kilomètres. Et le déjeuner que sa mère lui a servi c'était des noix de cola. Des noix de cola. Vous trouvez ça normal? Dans ce pays, les gens sont en train de souffrir. Ce n'est pas le moment que ces gens-là puissent présenter leur fortune. Nous savons que Katioto, c'est un homme riche. Et Katumbi est de cette famille. Nous savons la famille Bemba, nous savons la famille Moleka. Mais ce que nous voulons, cette richesse puisse être redistribué auprès de cette population qui est en train de souffrir.
Merci beaucoup. Alors, Baudouin Saïlé, quelle analyse vous faites de la dernière déclaration de Moïse qui demande une table ronde pour justement évoquer toutes ces questions de richesse?
Mon frère, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que certains noms qui sont cités à la longue des journées. Cécile, toujours ça. Il y a Mobutu Seseko, il y a Tshisekedi wa Mulumba, il y a Moleka, il y a Katumbi. Il n'y a que eux. Non, c'est quand même trop. Si mon frère Moïse...
Jean Domas dit que ce n'est pas important de faire cette
table ronde. Justement, s'il a l'argent, je le vois, il est généreux. Franchement, je le vois, il est généreux. Il peut commencer à construire des hôpitaux à travers la République. Parce qu'il est citoyen congolais. Avec ça, nous ne voulons pas des jugements. Oh non, je suis plus riche que l'autre. Moïse, c'est un homme généreux. Je lui recommande de tirer la République, de construire des hôpitaux, de construire des écoles. On va applaudir. Pourquoi faire des jugements? Pourquoi des tables rondes? Il n'y a que des tables rondes depuis les époques aujourd'hui. Il n'y a que des tables rondes. Tables rondes, les gens ne vont pas manger des tables rondes. Voilà notre frère de Mwanda qui dit que l'enfant qui vient de l'école peut être pieds nus.
À pied, et il a fait 7 kilomètres.
Il est à pied, il est pieds nus, il arrive à la maison, la maman le regarde, il regarde la maman, il est en train de pleurer. Maman, est-ce qu'il n'y a même pas un petit pain? Maman lui donne des noix de cola. Je ne sais pas qu'est-ce que les noix de cola, c'est quoi?
D'accord.
Je ne sais pas. Est-ce que c'est le manioc? Est-ce que c'est la banane? Tout ça, non. Nous voulons que ce pays ici puisse quitter un peu le stade ici de guerre politique, de réposition politique, pour que il y ait deux bateaux sur le fleuve.
Donc pour vous, Moïse est en train de chercher à se repositionner pour entrer à l'opposition.
Je ne sais pas si c'est lui de l'apprécier, mais il ne faudra pas qu'on mange dans tous les râteliers.
D'accord.
Ce n'est pas bon, c'est dangereux.
D'accord.
Vous comprenez?
Oui. Alors, JR, rapidement, parce qu'on doit aller déjà dans notre deuxième thème. Allez-y.
Oui, je me dis ceci, le débat n'est pas que les familles riches, Bemba, Katebe, Katoto, ou Moleka, ou Kindwe, ou d'autres, puissent redistribuer leurs richesses aux pauvres. Le problème, c'est que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui travaillent pour l'État, ne doivent pas en tout cas mettre de l'argent dans leur propre poche, mais il faut qu'ils s'occupent de la population. C'est ça le grand débat. On lui a dit, voilà, par exemple, vous avez eu l'occasion de vous enrichir. Et lui, il dit que non, je suis pas venu en politique le même vide. J'avais déjà de l'argent avant d'entrer au gouvernement. Mais il y a des gens qui rentrent au gouvernement sans même une maison, sans même une voiture. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans,
même
d'exercice du pouvoir, quelqu'un devient millionnaire. C'est le fond du problème, c'est celui-là. Les agents du fisc, par exemple, les agents de la douane, qui, officiellement, qui toucherait par exemple 200 ou 300 dollars, mais qui construisent des flat hôtels, qui roulent dans des limousines, des jeeps, des 100 000 dollars. C'est ça le fond du problème. Il n'a fait que répondre, sans être l'avocat de Moïse Katumbi, il n'a fait que répondre à ceux qui disaient que voilà, il s'est enrichi en étant gouverneur.
Et donc pour vous, la table ronde est quand même importante.
Oui, parce que on l'accuse de s'être enrichi au pouvoir. Il voudrait maintenant que des autres qui sont devenus riches en étant au pouvoir puissent justifier leur richesse. Lui dit qu'il est venu avec quelque chose.
D'accord. Merci beaucoup et c'est par là que nous allons rentrer dans notre deuxième thème de la soirée qui concerne cette proposition de loi référendaire. Les députés nationaux Lucain Kasongo et Simplice Ilunga, récemment nommés vice-ministres aux transports et voies de communication, ont initié cette semaine une proposition de loi portant organisation du référendum. Cette proposition est déjà transmise au gouvernement par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais déjà, certains politiciens de l'opposition dénoncent cette démarche qui viserait l'organisation du référendum pour obtenir le glissement du mandat présidentielle. Allégation que rejette l'un des initiateurs de cette proposition de loi, Luke Kasongo Mwadiamvita, réagit au micro d'Innocent Olinga.
Le but poursuivi, ce n'est pas d'organiser le référendum constitutionnel. Le but poursuivi, c'est de mettre un cadre juridique approprié en matière de référendum en République démocratique du Congo. Dans tous les pays du monde, il y a la loi référendaire. C'est ainsi que la République démocratique du Congo, en tant qu'un État démocratique comme les autres pays, doit avoir une loi permanente qui organise le référendum dans ce pays. Prenez le soin de parcourir cette proposition de loi, ni de loin, ni de près, une intention quelconque ne nous a animés. Nous, nous voulons mettre à la disposition de la République une loi référendaire. Un point entre la procédure qu'il faut suivre pour arriver à l'organisation du référendum. Et il n'y a que ça comme démarche que nous poursuivons. Ayez le temps de parcourir notre proposition de loi. Du début à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune mauvaise intention. Au contraire, la République va se retrouver avec cette loi parce que nous avons un vide juridique.
En réaction, l'opposition dénonce une démarche, je cite, « suspecte du pouvoir », fin de citation, dans le but de réviser la Constitution. Dans une déclaration politique faite lundi à son siège, en vol, parti du député Délice Sanga met en garde la majorité présidentielle contre ce qu'il qualifie déjà de, je cite, « violation grave », fin de citation, de la Constitution et de la procédure relative à ce projet. Selon Délice Sanga, ce texte n'a jamais été annoncé à la plénière de l'Assemblée nationale. L'opposant Délice Sanga le dit au micro de Jeff Ngoy.
L'envol est déjà surpris de cette initiative parce qu'il va à l'encontre à la fois de l'esprit de la Constitution et de la lettre de celle-ci. On ne comprend pas qu'il y ait une proposition de loi qui puisse organiser les référendums et qui, plus est passée à l'Assemblée nationale et est arrivée au niveau du gouvernement sans que le président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 139 de notre règlement intérieur, ait fait mention lors de l'adoption du calendrier que cette loi existait. Ceci rend déjà la proposition et l'initiative soupçonneuse aux yeux de tous et sa tendance à donner l'impression d'une forme de tricherie sur la révision de la Constitution parce que le référendum dans notre pays n'est pas d'initiative unilatérale. Il ne peut se concevoir que dans le cadre d'une révision constitutionnelle.
Alors, Baudouin Saïlé, quelle analyse vous faites de cette proposition de loi référendaire?
Merci beaucoup. Vous parlez de proposition. Pourquoi on doit avoir peur là-dessus, mon Dieu? Moi, je dis tout simplement que nous devons aller tout droit au dialogue.
Mais une proposition de loi qui n'est pas passée à l'Assemblée nationale, il faut le souligner.
Moi, je dis tout simplement c'est qu'il y a trop de problèmes dans ce pays et nous risquons de naviguer sans boussole. Non, il est temps, franchement, que tout le monde mette un peu d'eau dans le vin pour que nous ayons une seule voie à suivre, celle du dialogue entre Congolais. Au dialogue, nous allons dire des vérités et en fin de compte des choses.
Mais le dialogue ne va pas provoquer le glissement.
Mon cher frère, même les problèmes de glissement, ce n'est pas la fin du monde. Même s'il y a glissement, on parle dans les dialogues de glissement, nous sommes des humains. Il y a des problèmes qui naissent dans ce pays et ces mêmes problèmes doivent être appelés à être réglés par les hommes.
Mais le Congolais lambda, c'est qu'en 2016,
n'ayons pas peur du lendemain. Disons tout ça dans les dialogues. Allons au dialogue, causons autour d'une table, échangeons, voyons ce que ça va donner, c'est pas la fin du monde.
Donc pour vous, vous n'êtes pas d'accord avec certains analystes qui affirment, qui ne trouvent pas opportune la proposition de cette loi.
Je suis vu ce matin sur Okapi peut-être que Poutine, monsieur le Tarus, vient d'envoyer un émissaire chez le président Sassou Nguesso, où l'émissaire dira que le référendum est une démarche démocratique. Voilà. C'est acceptable. Ça peut aller de A à Z. Poutine a envoyé ici à côté. J'ai suivi la radio. Vous comprenez? Nous sommes tous des Congolais. Ce pays nous appartient. On n'est pas indispensable, comme a dit un jour le gouverneur de la ville, Kimbuta. On n'est pas indispensable. Nous devons faire ceci, des chocs, des idées jaillent la lumière. Voilà.
D'accord. Alors, Gérard Mokolo, qu'en pensez-vous de cette proposition de loi?
Oui, je comprends très bien les explications des initiateurs de cette proposition de loi,
Lucien Kasongo,
qui dit que non, c'est dans les soucis de mettre un cadre juridique approprié pour l'organisation d'un référendum dans ces pays. Donc, ça peut arriver qu'on appelle la population à se prononcer sur une question et qu'on trouve déjà
mais
que
en la fait, loi... Mais la Constitution voilà. a prévu trois matières sur lesquelles on fait le référendum. C'est le changement de la Constitution, c'est le changement de la capitale et l'autre, j'ai pratiquement oublié.
L'autre, c'est la cession d'une partie du territoire.
Voilà, étendre les frontières, voilà.
Voilà, donc, c'est le moment choisi, c'est le moment choisi qui pose problème.
Mm-hmm.
Apparemment, on vit vraiment une ressemblance de schéma entre les Congos d'en face et les Congos d'ici. Les uns parlent dialogue, nous aussi nous parlons dialogue. Maintenant, c'est le référendum, nous aussi nous parlons de référendum.
Mais on dit que c'était au lendemain de la visite du président Kabila au Congo-Brazzaville.
Je n'en sais rien, je reviens même pas à ce que je disais auparavant. C'est le moment choisi qui suscite en tout cas tous ces procès d'intention faits aux initiateurs de cette proposition de loi. Je pense que, comme vous l'avez rappelé, c'est soit pour déplacer la capitale, soit pour céder une partie du territoire, soit pour réformer la Constitution. Mais quand on voit très bien ces trois matières, changer de capitale, c'est pas prévu. C'est impossible pour le moment.
Mm-hmm.
Céder une partie du territoire, c'est réalisable. Donc tout le monde voit le fait que si cette proposition de loi a été faite, c'est pour changer de constitution.
Et vous êtes d'accord avec
Or, ces débats-là étaient déjà amenés depuis longtemps et que ça a suscité beaucoup, beaucoup de troubles dans les pays. Je crois que, comme ça pose problème, on ne peut que peut-être garder cette proposition de loi dans les congélateurs de l'Assemblée nationale, quitte à les ressortir après 2016.
D'accord. Alors, Jean Dombati, vous avez entendu le député Sessanga, cette proposition de loi n'est jamais passée par l'Assemblée nationale. Comment vous analysez la démarche du député Lucien Kasongo?
Ah bon, je pense que l'auteur de cette proposition de loi que nous avons suivie ensemble avec vous est clair. Hein, il dit que bon, dans tous les pays du monde, il y a une loi référendaire en permanence qu'on peut toujours s'en servir pour soumettre à la sanction du peuple. Les grandes questions que vous venez d'évoquer là-bas, ça peut être le déplacement de la ville-province de Kinshasa pour un autre lieu, ça peut être la cession d'une partie du territoire, tout ça, bon. Si les gens s'agitent aujourd'hui parce que c'est le moment qui dérange. Hein, c'est le moment qui dérange. Et de l'autre côté, on pense que bon, ce sont des intentions inutiles qu'on est en train de leur prêter.
Mm-hmm.
C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir cette loi. Il ne faut pas attendre 2015, non, 2020, 2022, tout ça. Donc
alors...
le problème, c'est le moment qui dérange, mais la loi en soi, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir ça.
D'accord. Alors, pour vous, est-ce qu'il faudrait qu'on puisse avoir cette loi pour conclure pratiquement, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, est-ce qu'il faudrait que cette loi soit votée pour éviter un vide juridique dans ce domaine référendaire en RDC?
Oui, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas attendre. Hein? Il ne faut pas attendre parce que nous sommes en démocratie. Hein? La loi doit être là. Mais bon, nous pensons que les uns et les autres vont fumer le calumet de la paix et en ce qui concerne cette loi-là. Mais la République en a besoin.
Merci.
Aujourd'hui ou demain, on en a besoin.
Merci. Alors, Baudouin Saïlé, est-ce qu'on a besoin de voter cette loi pour éviter ce vide juridique?
Le besoin ici,
c'est
pour
ça, c'est
moi,
votre conclusion.
Le besoin chez moi, c'est le chef de quartier doit être... On doit restaurer l'autorité d'État à travers la République. Le chef de quartier doit avoir un bureau décent. Il doit avoir un vélo, il doit avoir un poste téléviseur, il doit avoir une radio, une secrétaire, un huissier, pour qu'ils soient en contact avec la base. Mm-hmm. C'est très important. Les problèmes de tous, allons au dialogue. Nous ne voulons pas qu'il y ait
votre problème, c'est le dialogue.
Le dialogue et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.
Merci.
Voilà.
Alors, Gilles Mokolo, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de la commission.
J'estime que, bien que prévu par la Constitution, mais c'est pas vraiment opportun. La priorité, c'est que les uns et les autres puissent en tout cas mettre de l'eau dans leur vin pour qu'on arrondisse en tout cas nos angles, pour qu'on arrive à planifier des élections crédibles et transparentes en tout cas, qui ne vont pas aboutir à des contestations ou à la violence.
Merci.
Cette loi-là, je crois, elle peut attendre même après 2016, comme je l'ai dit. Ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas opportun pour le moment.
Merci beaucoup et c'est la fin de la tribune de la presse de ce soir. Paul Badianiam a été à la prise de son. Guy Mathieu a coordonné cette édition, supervisée par Philippe Lamondo. Berry Franklin Luciaka vous dit merci de l'avoir suivi et retrouvez cette émission sur le site www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.